En 1924, les tueurs de Johnny Torrio ont assassiné O'Banion. Deux mois plus tard, les lieutenants d'O'Banion, Amy Wise et Bugs Moran, ont tenté d'abattre Torrio. Il a survécu à la fusillade, mais a décidé de prendre sa retraite et a confié les opérations à Al Capone. Capone, le lieutenant de Torrio, s'est alors affranchi et s'est montré impitoyable.
Al Capone, roi des gangsters. Une grande traversée de Federico Polo Devoto et Marie-Laure Ciboulet. La prohibition a été mise en place pour résoudre des problèmes sociaux. C'est entendu. Mais finalement, elle n'aura permis qu'une seule chose de manière certaine. L'émergence du crime organisé. L'interdiction de la production et de la vente d'alcool est une aubaine pour la pègre qui va engranger des millions de dollars de profit avec le trafic illégal d'alcool. Inondant le pays avec sa bière et son whisky. Résultat, la prohibition a fait la fortune des criminels. Au premier rang desquels figure Al Capone, personnage incontournable du trafic d'alcool à Chicago. Mais cette activité extrêmement lucrative engendre aussi des convoitises, et elle est sur le point de faire naître un conflit sanglant entre les gangs de la ville.
Quand je parle des guerres de la bière, ça me fait toujours penser aux alliances de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il s'agissait en fait de gangs qui s'alliaient avec d'autres gangs. En général, ces alliances se faisaient en fonction de la proximité des territoires où était vendu l'alcool.
Épisode 3, guerre et paix dans la mafia.
The Northside Gang was led by Dean O'Banion.
Arthur Lurigio, psychologue et professeur de criminologie.
And he controlled a large
Le gang du Northside était dirigé par Dean O'Banion et il contrôlait une large bande du nord de la ville.
He controlled a large swath of the Northside, but there were other
D'autres gangsters se sont alliés à lui au cours des années et les alliances changeaient à l'intérieur même de la partie nord. Les principaux gangsters du gang du Northside étaient Dean O'Banion, Amy Wise et George Bugs Moran. Mais il y en avait d'autres. Il y avait aussi les frères Jenna qui vivaient dans mon quartier. Ils ont probablement fourni à mon arrière-grand-père le matériel, appelons ça comme ça, pour fabriquer du whisky, du vin et de la bière. Et ces appareils étaient encore là quand j'étais gosse. Les frères Jenna étaient alliés à Capone. Dean O'Banion et son gang ont commencé à s'infiltrer à l'ouest et à entrer en conflit avec les Jenna, lesquels étaient donc alliés à Capone. Or, quand on était allié à Capone, il vous soutenait toujours et approuvait tous les règlements de compte pour défendre votre territoire contre l'invasion de ceux du Nord. Il y avait aussi d'autres gangs à l'ouest. Il y avait le gang O'Donnell, le gang Guilfoyle et aussi les frères Jenna, qui étaient considérés comme faisant partie de l'Ouest. Et puis il y avait le gang O'Donnell du Sud, qui n'avait rien à voir avec les O'Donnell de l'Ouest. Et le gang Sheldon du Sud. C'était ça, les guerres de la bière. Pour dire les choses aussi simplement que possible, c'était s'entretuer pour gagner un peu de territoire, ce qui signifiait accroître ses profits grâce aux ventes d'alcool.
Au début de la prohibition, Dean O'Banion s'est associé avec Johnny Torrio,
Wayne Johnson, ancien chef de la division du crime organisé de la police de Chicago,
pour gérer un immense casino à Cicero qui s'appelait The Ship. Donc, ils dirigeaient cet établissement ensemble. Ils partageaient les profits et à l'époque, ils s'entendaient plutôt bien. Mais par la suite, l'un des frères Gina, je crois que c'était Angelo, qui avait pris l'habitude d'aller jouer au chip, a fini par accumuler une dette énorme envers le casino. Et lors d'une réunion, O'Banion et Torrio se sont disputés à propos de cette dette. Car O'Banion a dit à Torrio qu'il devait réclamer l'argent à ce type. Tu lui as fait crédit, à toi de te faire rembourser. Et O'Banion a ajouté que ce n'était sûrement pas lui qui allait lui courir après. Il a répété à Torrio que s'il voulait récupérer l'argent, il fallait que ce soit lui qui le réclame. Mais Torrio ne l'a pas fait. Et c'est donc comme ça qu'ils se sont brouillés.
Tu fais une affaire, John. Avec une brasserie comme ça, tu sors 1000 barils par semaine.
Va chercher la voiture.
Où tu crois aller comme ça?
Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça?
À ton avis?
Avance, on voit qu'on est entre amis, Dino Bagnon et John Torrio. Et ça, c'est un traité de paix?
Une simple transaction immobilière.
Ayant pour objet un local rempli de bière.
Lisez le contrat, c'est pas moi le propriétaire.
Sans blague, Dilly, tu me descends de flic juste après que tu m'aies vendu ce 3.
J'ai les menottes au poignet, moi aussi, alors arrête de chialer.
Shortly after that is when...
Et peu de temps après, O'Bagnon a piégé Torrio en lui vendant la brasserie C.O.N. et en s'arrangeant pour qu'il y ait une descente de police au moment où il la faisait visiter à Torrio. Comme O'Bagnon n'avait encore jamais été arrêté, il s'est juste fait taper sur les doigts, tandis que Torrio, lui, a écopé d'un an de prison. Et c'est ce qui a vraiment déclenché le conflit entre eux.
C'est donc cette audace incroyable de Dino Bagnon qui a déclenché la guerre. Je pense que les Italiens l'ont vécu comme une gifle en pleine figure de la part d'un Irlandais, et que ça a été l'un des principaux facteurs déclenchants de cette animosité. Dino Bagnon a été tué dans sa boutique de fleurs en 1924.
La guerre des hors-la-loi. Il y avait un chef de bande nommé Dean O'Bagnon. Il avait un grand commerce de fleurs dans le quartier nord de la ville. Cette affaire ne jouait guère qu'un rôle de camouflage servant à masquer d'autres opérations moins légales. Lorsque ces opérations empiétèrent sur le terrain de messieurs Capone et Torrio, il fut voué à la mort. Un jour, trois hommes se présentèrent dans la boutique du fleuriste. Le premier, Capone en personne, selon la rumeur publique, lui tendit amicalement la main, qu'O'Bagnon s'empressa naïvement de serrer.
« Comment ça va, les enfants ?»
Mais tandis que sa main était immobilisée dans l'étreinte de fer du bandit, les deux autres le mettaient en joue par-dessus l'épaule de Capone et pressaient sur la détente. Le fleuriste tomba à la renverse sur une grande couronne de chrysanthèmes qui lui avait été commandée pour l'enterrement d'un bandit tué quelques jours auparavant. Détective, 1er novembre
1928. Il a été assassiné par Frankie Yale de New York avec les deux hommes de main les plus sanguinaires de Capone, Anselmi et Scalesi. Ils étaient siciliens et ils avaient déjà commis de nombreux meurtres. Il s'occupait des règlements de compte. Dino Bagnon était un grand amoureux des fleurs depuis son adolescence et encore à l'âge adulte. Et il avait acheté une boutique de fleurs qui servait aussi de quartier général aux gangs du Northside. Dino Bagnon avait une personnalité complexe. Il pouvait vous prendre dans ses bras à un moment et vous abattre l'instant d'après. Il fournissait toutes les fleurs pour les funérailles des gangsters de l'époque. Il y avait parfois jusqu'à 25 voitures chargées de fleurs qui arrivaient au cimetière. Et c'était Dean O'Bagnon qui les vendait. Et il n'allait pas chez un autre fleuriste. Et après cela, quand Dean O'Bagnon a été assassiné dans sa boutique, son gang a eu une soif terrible de vengeance. Et Johnny Torrio, en tant que boss, était une cible importante.
Torrio se trouvait sur un trottoir avec sa femme après avoir fait des courses.
Geoff Schumacher, vice-président des programmes du Musée du crime organisé à Las Vegas.
Bugs Moran et un autre type sont arrivés et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises.
Comment tu te sens?
Ça peut aller.
Torrio a survécu à la fusillade.
La morphine.
Profites-en pour te détendre. On t'a mis des gardes et des infirmières jour et nuit. Tu seras dehors en moins de deux.
J'ai passé l'âge pour ces jeux-là. Je vais pas aller me battre. Elle est à toi. Al, prends-la.
Que je prenne quoi?
Toute l'organisation.
À la suite de ça, il a déclaré qu'il voulait quitter Chicago, qu'il en avait assez de cette ville. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a mis Capone à la tête du gang et qu'il est retourné à New York.
Il est rentré à New York. Il est revenu en tant que vétéran du crime organisé. Et il bénéficiait d'un prestige considérable et d'un grand respect auprès des gangsters new-yorkais. Car il avait probablement aussi joué un rôle dans l'installation des familles mafieuses à New York et au-delà. Al Capone avait été son principal lieutenant. Et quand on lui a tiré dessus en 1925, il lui a transmis le commandement. Il lui a dit, c'est tout à toi, Al. Et il a reconnu que Capone était à la hauteur de la tâche. Et il l'était très certainement. Al Capone avait appris les ficelles du business auprès de lui. Al Capone avait une intelligence supérieure à la moyenne et il ne reculait pas devant la violence, loin s'en faut. Il souhaitait que les affaires se fassent de façon pacifique et a tenté d'opérer des ouvertures, sans succès. Après qu'O'Banion ait été tué, le gang du Northside était dirigé par Aimee Weiss, qui était très violent et qui était le seul truand que craignait Capone. Aimee Weiss n'était pas son vrai nom. Il était polonais et il avait une soif de vengeance terrible, démesurée contre Capone. Il a essayé de l'assassiner à plusieurs reprises. La tentative la plus connue ayant eu lieu quand Capone se trouvait dans son quartier général de Cicero, à Lawthorn Inn.
So, Richard Lindbergh, we are here in Cicero.
Yes, this is the town of Cicero. We're on 22nd Street, also known as Cermak.
Alors, nous sommes à Cicero, sur la 22e rue, appelée également Cermak Boulevard. Et nous sommes à l'endroit précis où se trouvait l'hôtel Hawthorne, qui fut le site d'un célèbre événement impliquant Al Capone, qui a failli y laisser sa vie.
On September 20th, 1926,
le matin du 20 septembre 1926, il était en train de prendre son petit déjeuner avec son garde du corps, Frank Rio, quand soudain, un convoi de 8 voitures est passé devant l'hôtel au ralenti et que des mitraillettes sont apparues aux fenêtres des voitures et ont commencé à tirer sur Hawthorne avec Capone à l'intérieur dans une tentative d'assassinat qui a échoué par miracle. Plus de 200 balles ont été tirées sur le bâtiment, faisant voler les vitres en éclats, et Capone a été jeté au sol par son garde du corps. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête. Les tables et les chaises étaient fracassées, tout ce qui était en verre explosait. C'était une scène de chaos absolu. Personne n'a été tué. Le convoi de voitures était mené par le gang rival du Northside. Seule une femme a été légèrement blessée pendant la fusillade. Elle passait dans la rue en compagnie de son mari en poussant le landau de leur bébé et une balle atteinte par accident. Mais ses blessures se sont avérées sans gravité. Capone a réglé ses frais médicaux et a aussi entièrement remboursé Ted Anton, le propriétaire de l'hôtel, des frais de remise en état du bâtiment qui avaient été très endommagés. Le restaurant n'existait quasiment plus. C'est là que Ted Anton a commencé à se demander s'il allait continuer à travailler avec des gangsters et a fini par décider d'arrêter vers la fin des années 20, peut-être en 28, je ne sais plus. Il avait assez de voir ses bâtiments être pris d'assaut. Et un jour, il a disparu. On a fini par retrouver son corps dans un fossé dans la banlieue sud. Morale de l'histoire, c'est qu'on ne contrarie pas le gang de Capone. Si vous couchez avec eux, vous restez au lit avec eux et vous ne pouvez pas quitter le business.
You don't cross the Capone gang. If you get into bed with them, you stay in bed with them and you can't get out of the business.
Il y a bon temps que le balafré a pris toutes ses précautions. Il ne sort jamais sans sa garde de corps. 8 hommes qui forment autour de lui un double rempart. C'est pour cela que les assassins présomptifs ne pourront pas viser sa tête à travers l'espace laissé libre à la hauteur du cou de ses gardes. De plus, tous ces hommes, chefs et gardes, portent des vestes imperméables aux balles du plus récent modèle. Selon eux, rien, si ce n'est des boulets de canon, ne pourraient transpercer la forteresse combinée, la double muraille de crâne et d'acier, et dont la rupture aurait finalement raison de cet homme. L'auto de ce monsieur Capone est également blindé, et dans ses deux maisons de Cicero et de Chicago, sa chambre et la salle à manger familiale sont tapissées avec un acier de cuirassé de la meilleure espèce. Détective, 1er novembre 1928. Alan Ross McDougall.
Al Capone was obsessed about his safety, and for good reason. I would not call it
Al Capone était complètement obsédé par sa sécurité. À vrai dire, il y avait de quoi. Et je ne dirais pas qu'il s'agissait d'une fixation complètement irréaliste sur le fait de rester en vie, parce qu'il y a eu de nombreuses tentatives d'assassinat contre Al Capone. Probablement plus que contre n'importe quelle autre figure du crime dans toute l'histoire américaine. Il a battu tous les records. Il y a bien eu d'autres gangsters sur qui on a tiré à plusieurs reprises, mais pas à ce point. Et donc, je n'appellerai pas ça une obsession, mais plutôt une peur salutaire pour sa sécurité et pour son salut. Capone était en train de devenir le plus puissant gangster de la ville de Chicago. Et il était aussi une personnalité très en vue. Et donc, le tuer ne voulait pas seulement dire gagner du territoire dans cette guerre de la bière. Cela voulait aussi dire acquérir une réputation. Vous tuez quelqu'un d'important, votre prestige grandit. Donc, Al Capone était protégé par des gardes du corps. L'un d'entre eux, son garde du corps principal, Frank Rio, était cousin de mon grand-père. Où que Capone aille, Frank Rio était à ses côtés. Il avait acheté une Cadillac blindée d'une valeur de 25 000 dollars. Cette Cadillac avait des vitres et des portes à l'épreuve des balles. Et probablement, le coffre et le capot l'étaient aussi, mais ça, je n'en suis pas très sûr. En tout cas, c'était une des plus grosses voitures du parc automobile américain de l'époque. Et 25 000 dollars dans les années 20, cela équivaut à plus de 100 000 dollars aujourd'hui. Je dirais donc qu'il avait une saine préoccupation pour sa sécurité, et que cette préoccupation ne relevait pas de la paranoïa.
Parmi les caractéristiques exceptionnelles de cette voiture, grâce auxquelles il a échappé à la loi, on peut citer sa capacité à circuler rapidement. Je vais vous en faire la démonstration.
Archives British Pathé, 1933.
Tout d'abord, le fait que cette voiture soit équipée d'une sirène de police réglementaire. La sirène de cette voiture permettait à Capone de s'enfuir à tout moment, car l'une des lois des États-Unis stipule que personne d'autre qu'un officiel, un policier ou un pompier ne peut avoir une telle sirène sur sa voiture. Et ce, simplement en touchant là. Une autre caractéristique de cette voiture est qu'elle est équipée de vitres par balles. Ses portes pèsent une soixantaine de kilos, chacune d'entre elles. Le pare-brise. Le verre du pare-brise a une épaisseur de 3 cm. Sur les portes, il est d'une épaisseur de 2,5 cm. Et le tout est cerclé d'acier. Toute la voiture est recouverte d'une ligne d'acier. Je vous montre l'arrangement spécial.
Brad Schwartz, historien et auteur d'un ouvrage consacré à Al Capone et Elliot Ness.
Ses gardes du corps étaient parfaitement entraînés. Ceux qui l'entouraient portaient toujours des gilets pare-balles. Un journal a même comparé sa garde rapprochée à une forteresse de viande. Ce que je veux dire, c'est qu'il était mieux protégé à la fin des années 20 que le président des États-Unis de l'époque. et peut-être même mieux que certains chefs d'État d'aujourd'hui.
Ici, c'est le 2109. Oui, c'est donc là, juste à côté. Nous nous trouvons devant le pavillon situé au 2111 West Austin Boulevard, à Cicero. C'est un bâtiment de briques marron foncé de deux étages muni d'un sous-sol. Il appartenait à Antonio Lombardo, qui était l'un des plus proches amis d'Al Capone et qui était le nouveau président du syndicat national italo-américain. C'était le nom qui avait été récemment donné à l'Unione Siciliana, qui était une très célèbre organisation de bienfaisance réservée donc aux Siciliens. Un endroit où les gens pouvaient se rendre pour différents services, comme par exemple des offres d'emploi, et il fallait payer une cotisation pour en être membre. Mais c'était aussi et surtout une organisation italienne qui servait de couverture pour la pègre, avec des liens avec la mafia sicilienne en Italie. Devenir président de cette organisation était une fonction extrêmement prisée par les Italo-Américains et notamment ceux originaires de Sicile. De nombreuses personnes aspiraient à en devenir président et étaient assassinées les unes après les autres par des forces d'opposition. Antonio Lombardo a été tué en 1928 à l'une des intersections les plus fréquentées du centre-ville de Chicago. Il venait de sortir du building Hartford, où se trouvait justement le siège du syndicat national italo-américain. Peu de temps avant le 7 septembre, le jour du meurtre, on avait déjà tenté de l'assassiner sans succès.
Un après-midi en pleine foule. La dernière en date de ces agressions a eu lieu le 7 octobre dernier. Antonio Lombardo, un des chefs attitrés des bas-fonds de Chicago, frère d'armes du roi des Apaches de cette ville, Alphonse Capone, Al le balafré, a été tué sur place. Ces meurtriers, perdus dans la foule, n'ont pas encore été retrouvés. S'il faut en juger sur des précédents créés par des affaires analogues, ils ne le sauront jamais. Le crime fut commis dans l'après-midi, vers 16h30, à l'angle des rues Madison et Dearborn. Ce carrefour est réputé comme étant le plus encombré de la ville et certainement l'un des plus encombrés de l'univers. On pourrait le comparer à Broadway, New York, à la hauteur de la 42e rue, ou encore à la place de l'Opéra, un jour de fête. La foule, qui tous les jours s'y presse et s'y bouscule, était ce jour-là encore accrue par quelques milliers de badauds en contemplation devant un énorme aéroplane que l'on hissait au haut des magasins de Bosbin, où il devait être exposé. L'hôtel de ville n'était distant que de trois rues. Accompagné de deux hommes, ses gardes du corps, Antonio Lombardo s'était avancé le long de Dearborn Street. Au moment où il s'engageait dans Madison Street, on entendit soudain une détonation percer le brouhaha confus des voix et du trafic. Puis une autre, et encore une, se succédant presque sans interruption. Des meurtriers inconnus étaient en train de déverser tout leur stock de balles doum-doum dans le dos de Lombardo et de Joseph Ferraro, l'un de ses gardes du corps. À la première détonation, la sage foule de Chicago s'était jetée, criant et hurlant à la recherche d'abri. On eût dit autant de lapins. Lombardo, tombé à terre, se tordait dans les transes d'une horrible agonie, les balles doum-doum s'étant logées dans la partie postérieure de sa tête. Quelques minutes après, il avait cessé d'exister. Détective, 1er novembre 1928.
There was a power struggle going on, and a rival Italian gangster named Giuseppe Aiello.
Une importante lutte de pouvoir avait donc lieu, et un gangster italien rival nommé Giuseppe Aiello avait lui-même l'ambition de devenir président du syndicat. Et comme on lui avait refusé, il s'était allié avec George Bugs Moran du gang du Northside, composé principalement d'Irlandais américains, afin de contrecarrer l'alliance de Capone avec Tony Lombardo.
Al Capone wanted Lombardo to be president. Aiello wanted himself.
Al Capone voulait que Lombardo soit président. Tandis qu'Aiello voulait que ce soit lui-même ou quelqu'un d'autre. Aiello était obsédé. Et en tant que psychologue, c'est vraiment le terme approprié. Il était obsédé à l'idée de devenir le prochain Al Capone. Or, c'était loin, très loin d'être à sa portée. Il n'a jamais eu les partisans qui lui auraient permis de représenter une menace pour Al Capone. Il n'a jamais disposé non plus de la puissance de feu pour espérer supplanter Al Capone. Et pourtant, il a essayé. Et quand il a réalisé qu'il ne pourrait jamais l'abattre, il a essayé par d'autres moyens. Il a tenté de l'empoisonner à plusieurs reprises. Frank Rio dirigeait le service des renseignements de l'organisation de Capone. Il existait un véritable réseau d'espions dans toute la ville. Un jour, Rio a prévenu Capone qu'Aiello allait tenter d'empoisonner sa soupe. Capone a riposté. Et quand Capone ripostait, ce n'était pas avec du poison, mais avec des balles. Je souris parce qu'à l'époque, les Italiens croyaient dur comme fer que si on enduisait les balles d'ail, ça empoisonnait la victime qui mourait plus rapidement et en souffrant encore plus. Or, il se trouve qu'en réalité, l'ail a des vertus antibactériennes. Bref, de vrais contes de bonnes femmes. Pour finir, Frank Aiello a été abattu de 13 balles.
Hit with 13 bullets.
Tous ces assassinats et tentatives d'assassinat ont été la conséquence directe de la guerre entre le gang du North Side et celui de Capone, dont le quartier général était au sud. Et ça a été une lutte acharnée pour s'assurer le contrôle de la ville. Il faut se rappeler qu'à l'époque, tous les nightclubs, les bars, les plus grands hôtels se trouvaient au nord. C'était ce business hyper lucratif que voulait conquérir Capone. Il contrôlait toute la zone Cicero et du sud, mais il lui restait à conquérir le nord, qui était la dernière partie de la ville où établir sa suprématie. Et c'est ce qu'il a fait. Et la maison de Lombardo est le témoignage muet de cette période de violence sanguinaire et de fusillades qui ont eu lieu dans les rues de Chicago.
Il y a eu 766 meurtres de 1919 à 1932. Les années les plus violentes ont été celles de 25 à 28. La violence systémique associée au commerce consistait à tuer les membres des gangs rivaux parce qu'ils empiétaient sur votre territoire ou parce que vous vouliez empiéter sur le leur. Et les territoires en question étaient petits. Il ne s'agissait nullement de contrôler des kilomètres de pâtés de maison. C'était comme pendant la Première Guerre mondiale. On se battait pour quelques kilomètres. Et en général, il ne s'agissait même pas d'un nombre à deux chiffres.
Finalement, la geste de Capone, c'est 500 morts, on dit.
Benoît Tadier, professeur de littérature américaine.
Ce sont essentiellement des morts de gangs rivaux, tous ceux qui ont été débarrassés au fil du temps, sans jamais être lui-même attrapé pour ça, notamment O'Banion, on le sait, et puis Jaime Weiss, enfin tout le gang du North Side, qui a été finalement, c'est presque une sorte d'Iliade, hein, cette histoire entre le South Side et le North Side, ça reprend presque des... On appelait ça aussi à un moment la bataille de la Marne des gangsters, donc ça reprend des espèce de schéma épique, et ça donne une espèce de grandeur un petit peu, là aussi, narrative romanesque à cette histoire, mais ça montre également le caractère totalement implacable, disons, d'une entreprise fondée sur la concurrence, finalement. Alors la seule différence avec les autres formes d'entreprises concurrentielles, c'est qu'on se débarrasse de ses rivaux de manière un peu plus brutale, mais d'une certaine façon, ça montre aussi que le succès, c'est une forme d'agression, que finalement, être un grand capitaliste, c'est pouvoir agresser sans être freiné.
Il y a une montée de la violence aussi. Pendant très longtemps, la violence était entre groupes.
Hélène Arter, historienne, spécialiste de l'Amérique du Nord et autrice des Incorruptibles contre Al Capone.
C'est-à-dire qu'on se battait pour le contrôle d'un territoire. Il y a eu cette montée de la violence, on le disait, au détriment des passants qui sont là, l'importance du racket. Et puis, il y a aussi cette dimension de la médiatisation, hein, ce massacre de la Saint-Valentin qui va faire prendre conscience à l'opinion de la violence qu'il y a dans ce crime organisé et de cette notion de l'inacceptable.
L'affaire Al Capone de Roger Corman, 1967.
Allô ? Jack, heureux de t'entendre, mon fils. Quel temps fait-il à Chicago ?
Près de zéro, monsieur Capone. On aurait bien besoin d'un peu de soleil de Miami ici.
Ah oui, ça, je le crois. Et t'as quelque chose de spécial à me dire, mon fils ?
Oui, monsieur. Tout est en place pour jeudi, monsieur Capone. Dans la matinée, autour de 10h30, pour la Saint-Valentin, nous leur offrons un joli cadeau.
Valentin. Ah, oh, mais c'est vrai. Jeudi, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. C'est une date à marquer d'une croix, je veux dire, pour notre ami Moran. Écoute, ne lésine pas, hein. Je veux que le cadeau de Moran soit rouge, un beau rouge sang.
Ce jour glacial à Chicago, nous nous trouvons à l'endroit même où s'est produit l'un des crimes les plus tristement célèbres de l'histoire américaine. Un crime qui a vraiment mis Chicago sur la carte en tant qu'endroit tristement célèbre et gangréné par la criminalité. Nous sommes précisément au 2122 North Clark Street, dans le nord de Chicago. C'est le site du massacre de la Saint-Valentin qui a eu lieu le 14 février 1929.
En fait, les causes du massacre de la Saint-Valentin, on les connaît. C'était toujours cette guerre entre le South Side et le North Side. Il s'agissait là de prendre une revanche sur George Bugs Moran, qui était resté fidèle à O'Banion, qui lui-même avait été éliminé en 1924. Donc depuis 5 ans, il était encore en train de continuer cette guerre menée, c'est presque homérique, on pouvait dire, dans cette durée. Et là, donc, une expédition punitive est lancée par Al Capone, qui lui-même se trouvait à l'époque dans sa grande maison de Floride, en train de donner une grande soirée pour être sûr que, ou en tout cas d'avoir beaucoup d'invités pour être sûr que personne ne pourrait l'accuser de l'avoir commis. Donc toujours l'idée d'avoir un bon alibi et d'être loin du lieu.
La voiture est dans un garage derrière le 1723 Wood Street, que vous voyez là. Il donne sur une avenue menant vers le nord et vers le sud. Vous prendrez cette avenue jusqu'à Bloomingdale, puis à gauche vers le nord. Ensuite à l'est de Webster vers Clark. Vous continuerez jusqu'au sud de Clark Street, à 25 mètres des maisons, c'est là.
D'après mes recherches, ça s'est passé dans une station balnéaire du Wisconsin où les membres clés de l'organisation se sont réunis et ont débattu de la façon dont ils allaient mettre ça en place et le réaliser. Et ce qu'ils ont fait était très malin à l'époque, car les gangsters de Chicago étaient si connus qu'ils pouvaient facilement être identifiés sur place, ce qu'il fallait évidemment éviter.
Étant donné que vous n'êtes pas du quartier, personne ne pourra vous reconnaître. L'essentiel, c'est d'avoir l'air de vrais flics.
Ils ont décidé de faire appel à des types qui ne venaient pas de Chicago. Ils ont fait venir des types du gang Egan's Rats de Saint-Louis. Machine Gun Burke était à la tête du groupe. Ils ont donc organisé ça et l'ont accompli à la perfection.
Voilà, Moran. Comme vous serez de l'autre côté de la rue, vous ne pourrez peut-être pas voir sa gueule. Mais vous le reconnaîtrez facilement. Aucun de ces gardes du corps n'est bâti comme lui. Il est presque toujours habillé en complet marron, par-dessus, chapeau.
Quand j'avais 14 ans, je suis venu voir ce bâtiment un mois avant sa destruction. Je me souviens qu'il y avait une petite vitre très sale que j'ai essuyée pour tenter de regarder à l'intérieur. Je venais de voir dans le centre-ville un film dans lequel il y avait une scène relatant le massacre et j'avais pris le bus pour venir jeter un coup d'œil ici. Et j'ai donc vu l'endroit exactement un mois avant qu'il ne disparaisse pour toujours. Désormais, comme vous pouvez constater, c'est un parking pour les résidents de cette maison de retraite. Le bâtiment qui se trouvait là, jadis, c'était un entrepôt d'un seul niveau, tout ce qui est plus banal. À l'époque, ça s'appelait la SMC Cartage Company, et ça servait de dépôt pour des livraisons de camions. Alors, il est important de noter qu'ici, c'était le territoire de Bugs Moran. Il habitait Lincoln Park West, dans un de ces grands buildings que vous apercevez au bout de la rue. Et les membres du gang vivaient et travaillaient tous dans le quartier. Le plan de Capone pour abattre Moran avait été programmé à l'automne 28. Les hommes de Capone ont installé un poste d'observation au deuxième étage de l'un de ces immeubles, juste en face, d'où ils pouvaient surveiller les allées et venues à l'aide de jumelles.
Madame Doudy, mon ami et moi, on aimerait avoir une jolie chambre donnant sur la rue. Oui,
ça va entrer, je n'ai pas à chauffer tout le quartier. Vous prenez où est le charbon, je n'en sortirai pas.
Ouais.
And that was owned by a woman by the name of Mrs. Michael Doody.
Ça appartenait à une certaine Miss Michael Duty qui louait des chambres à la journée ou à la semaine à des gens du spectacle, des comédiens de vaudeville, des musiciens, des pianistes, parce qu'ils travaillaient tous dans les nightclubs des environs. C'était un quartier de passage.
Vous faites partie d'un orchestre ?
D'un orchestre, oui. Mais qui fait tous les cabarets du côté de Fullerton.
Les chambres sont au premier.
Les types ont insisté pour louer une pièce qui donnait sur la rue pour qu'ils aient un poste d'observation.
Non, ce qui nous a plu, c'est que votre maison est très bien située, Madame Doudy.
Vous savez, je veux pas de bruit chez moi. Les locataires sont des gens en calme. Je ne supporterai pas.
Oh, vous inquiétez pas pour ça, Madame. Nous, on se sert de ces instruments que les jours où on nous paye.
Vous voulez deux chambres ou une pour deux ?
Une chambre pour deux, mais à la condition qu'on voit la rue.
Je vais vous faire voir ce que j'ai.
And it's the old joke about...
Et c'est la fameuse blague sur ces hommes qui portaient des étuis à violon dans lesquels il n'y avait pas de violon. Et effectivement, les deux hommes portaient des étuis à violon, mais à l'intérieur, il y avait des fusils de chasse. Et ils se sont installés là pendant plusieurs semaines.
C'est une très jolie chambre, Madame Doudy. Voilà ce qu'il nous faut.
Now, further in this direction... Alors
maintenant, plus loin dans cette direction, se trouve le 2137 Clark Street. C'était aussi un poste d'observation. Et depuis le deuxième étage, ils avaient une vue triangulaire sur l'entrepôt. Ils avaient une vue parfaite de qui entrait et de qui sortait.
So they had a perfect view of who was walking in and who was coming out. It was at 10:30 in the morning when a
il était 10h30 du matin quand une voiture maquillée en véhicule de police s'égarait là, de l'autre côté de la rue. C'était une vieille Cadillac qu'ils avaient remise en état et sur laquelle ils avaient collé des autocollants de police.
Silence, French. Silence. Est-ce que c'est toi ?
Quatre hommes ont pénétré dans le garage. Deux d'entre eux portaient des tenues de policiers.
Ah, bonjour, messieurs. Je peux faire quelque chose pour
ferme
vous ?
Ferme ta gueule, toi.
Ah.
Maintenant, va là-bas, face au mur.
Ah.
Vous aussi, vous entendez ? Allons, pressons.
Ne nous énervons pas.
Et donc, quand ils sont arrivés, on a pensé que c'était une banale descente de police.
Qu'est-ce que vous attendez ? Allez ! Et vous deux, grouillez-vous. Plus vite. Allons, ne discute pas. Main contre le mur.
Appuyez-vous.
Dans ces cas-là, on mettait les mains en l'air. Ou bien on leur donnait un pot de vin et ils repartaient. Ou bien ils vous embarquaient au poste de police, où ils vous gardaient un moment et puis ça s'arrangeait. Et donc, ils les ont bernés. Ils ont pu avoir accès à l'entrepôt et les ont tous fait mettre les mains en l'air face au mur, sans qu'ils se rendent compte un seul instant de ce qui leur arrivait.
Les membres du gang Moran étaient en train de jouer aux cartes en buvant leur café du matin. C'est ce qu'ils étaient en train de faire quand ils ont été soudain interrompus. Les huit hommes se sont retrouvés alignés côte à côte, face au mur, serrés les uns contre les autres, et on leur a ordonné de lever les bras et de mettre les mains contre le mur. La salle était petite, et c'est ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. C'est à quel point ils étaient à l'étroit quand la tuerie a commencé. Aux fusils de chasse et à la mitraillette. Et ils se sont servis de leurs mitraillettes comme de tuyaux d'arrosage, les arrosant de droite à gauche, de gauche à droite, en partant de la tête et en descendant vers les joues. Les types se sont effondrés les uns après les autres. Et on dit que le sang s'est répandu partout sur le sol. On aurait presque cru que le sol n'était pas en rouge. quelques minutes plus tard, un photographe qui se trouvait dans le coin et qui s'appelait Eck Miller est entré. Il a été le premier à photographier la scène. Il est monté sur une chaise et a pris ses photos en plongée. Je l'ai rencontré. Et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a raconté.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils n'ont finalement pas eu celui qu'ils voulaient tuer. Le type qui dirigeait le gang du Northside, George Bugs Moran. C'était lui que Capone voulait abattre. Or, Moran était censé se trouver là.
Bugs Moran avait quitté son appartement de Lincoln Park West et il marchait dans cette direction à environ un demi-pâté de maison d'ici.
Je lui ai dit que si la prochaine fois il augmentait ses prêts à la dernière minute, comme il essaie de le faire, il pourra les se rhabiller. Ces types-là, il faut les remettre à leur place.
Regarde, les flics. On peut dire qu'ils ont bien choisi leur moment, ces imbéciles.
Ça va faire du propre s'ils seraient au Samen avec la camelote pendant qu'ils sont là. Et si on allait prendre un café?
Ouais, je suis gelé.
Il est entré dans un coffee shop au bout du pâté de maison. Ce café est aujourd'hui une échoppe de hamburgers et de hot dogs. Il était en train de boire tranquillement son café du matin quand il a entendu le vacarme des mitraillettes. Et un instant plus tard, le son des sirènes de police.
Hé, hey Kenny! Les flics viennent de buter un tas de gangsters dans un garage au bout de la rue.
Quelques heures après le massacre de la Saint-Valentin, les journalistes réussirent à découvrir la cachette de Moran pendant que la police le recherchait encore.
J'ai dû attraper froid. J'ai des bronches extrêmement fragiles.
Où étiez-vous, Monsieur Moran, quand c'est arrivé?
Pourquoi? Hors de la ville.
Est-ce que vous croyez que votre maladie sera longue?
Eh bien, c'est très difficile à dire. Mais ça peut durer encore quelques jours.
Savez-vous que les flics vous recherchent, Monsieur Moran?
Je me demande bien pourquoi. Il n'y a rien à dire à ces messieurs.
Vous allez peut-être vous retrouver au chômage.
Bugs Moran s'est présenté à l'hôpital en disant qu'il souffrait de bronchite. Et c'est là que les reporters qui se sont réunis à son chevet lui ont demandé « Qui a commandité ça, d'après vous ?»
Monsieur Moran, il y a bien des gens dans cette ville qui disent que ce sont les policiers qui ont tué cet homme. Croyez-vous que ce soit possible ?
On voit que vous connaissez bien mal cette ville.
Et il a répondu, seul Al Capone est capable de tuer comme ça.
Seul Al Capone tue de cette façon-là.
Capone was in Florida.
Or, Al Capone se trouvait à Palm Island, en Floride. Il était en compagnie du célèbre boxeur Jack Sharkey et recevait des fonctionnaires du Dade County. Il se prélassait au soleil ce matin-là quand c'est arrivé. Il n'a donc pas eu de mal à convaincre qu'il n'était pas à Chicago lorsque le massacre s'est produit.
Monsieur Capone, avez-vous vu dans les journaux toutes ces photos montrant ces hommes horriblement mutilés?
J'ai jeté un coup d'œil. Terrible.
Je vais me permettre de vous poser une question, Monsieur Capone. Où étiez-vous le matin de la Saint-Valentin?
On m'a jeté ici, à Miami. Pour être précis, j'étais en réunion avec le district attorney, toute la matinée.
Connaissez-vous Monsieur George Moran, personnellement?
Oui, oui, une fois, il y a plusieurs années. Mais je ne pense pas que je pourrais le reconnaître.
Les autorités de Chicago soutiennent que vous êtes derrière ce massacre. Que pensez-vous de cette affirmation?
On ne vous en surprend pas du tout. C'est chaque fois la même chose, ils m'accusent de tout depuis l'incendie de Chicago.
Savez-vous ce que Bugs Moran a dit aux journalistes, Monsieur Capone? Il a dit que seul Al Capone tue de cette façon.
Bugs Moran's future career after his gang...
La carrière de Bugs Moran, une fois que son gang a été complètement décimé, se résume à une série d'échecs. À l'époque, dans les années 30, il s'est remis au vol et autres cambriolages. Il n'avait plus de gang. Et il n'a plus jamais regagné ni respect, ni opulence, ni pouvoir, ni tous les privilèges dont il avait joui auparavant. Il est mort de mort naturelle en prison en 1957.
Le matin, 16 février 1929.
À Chicago, contrebandier fusillé par des bandits rivaux.
Le petit journal, 15 février 1929.
Fumé en policier des bandits de
Chicago mitraillent 8 de leurs rivaux.
Chicago, 14 février. Un groupe de bandits portant l'uniforme de policiers s'est rendu aujourd'hui au quartier général d'une bande rivale. Ils ont obligé les 8 occupants à se rendre dans une pièce au fond de la maison et après les avoir alignés contre le mur, haut les mains, les ont froidement abattus à l'aide d'une mitrailleuse. La police a retrouvé plus tard les corps des victimes dans des attitudes
Le massacre
grotesques.
Des contrebandiers de Chicago.
Chaque corps avait reçu au moins 10 coups de feu. Cette affaire s'est compliquée ce soir et cache, à en croire le major Siloué, adjoint à l'administrateur de la Prohibition, un scandale de premier ordre. Le major a en effet exposé une théorie d'après laquelle le massacre des 7 individus a été commis par des policemen qui voulaient se venger parce que ces bootleggers
Chicago
via Londres, 14 février, Télégraphe Matin. Monsieur William Russell, le commandant de la police de Chicago, a publié ce soir le communiqué suivant. Cet attentat a été la goutte qui fait déborder le vase. Les bandits ont ouvertement déclaré la guerre à la police. Nous acceptons leur challenge. J'ai donné des ordres pour la mise en arrestation de tous les criminels qui se trouvent dans la ville.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'écho médiatique que ça a eu, donc à la fois par le côté très spectaculaire, par le nombre de morts, même si quand on pense au massacre, on pense à plus de 7 morts. Il y a eu 7 personnes qui ont été tuées, on imagine 40, mais c'est amplifié surtout par donc la dimension médiatique. Et aussi le fait que pour la première fois, les journaux ont publié les images des cadavres sans les masquer. Jusque-là, il y avait des croix qui étaient posées sur les photos des cadavres dans la presse américaine, d'où... le titre d'un ouvrage de l'époque qui était « Cross marks the spot », la croix montre l'endroit, ou cache l'endroit, si on veut. Alors que là, pour la première fois, ils ont montré en pleine page donc les cadavres, et ça a totalement choqué l'Amérique. Et je crois que c'est vraiment, c'est à l'origine d'une sorte de psychose nationale, en réalité, qui se répercute partout, et à l'étranger aussi, où l'image de l'Amérique, évidemment, en souffre beaucoup. Ou en tout cas, même en Angleterre, on voit que l'Amérique... Et censé être un pays où il n'y a plus que des gangsters et de la criminalité. En France, c'est pareil. Et même dans le sud des États-Unis, on voit qu'un auteur comme William Faulkner, par exemple, s'empare de cette histoire, la transforme, mais fait aussi, lui, un roman de gangster, Sanctuaire, qu'il écrit en 1929, qui sera publié en 31. Donc, ça devient vraiment une espèce de mythe national à ce moment-là. Je crois que c'était finalement le coup d'éclat qu'il fallait pour couronner la geste du gangster.
When the St. Valentine's Day massacre happened, it was front page news across the country.
Quand le massacre de la Saint-Valentin a eu lieu, il a fait la une de tous les journaux du pays. Et ça n'était pas bon du tout pour le crime organisé. Ça allait probablement conduire à plus d'enquêtes de police et plus de poursuites judiciaires. Ce n'était donc pas une bonne chose. Et les autres parrains de la pègre n'ont pas du tout été contents d'Al Capone, dont ils pensaient qu'il était à l'origine des meurtres, bien qu'il n'ait jamais été poursuivi. D'ailleurs, les historiens eux-mêmes sont tous d'accord pour considérer que c'est lui qui a orchestré ce massacre. Une réunion au sommet a donc été planifiée à Atlantic City, dans le New Jersey. Il y avait plusieurs points à l'ordre du jour de cette réunion, laquelle ne concernait donc pas uniquement Capone. Mais bien qu'il se trouvait en Floride le jour de la Saint-Valentin, il a tout de même été convoqué au sommet d'Atlantic City. Et même si nous ne sommes pas sûrs à 100% de ce qui s'est dit à cette réunion, on pense qu'il a été décidé que Capone devait faire profil bas pendant un certain temps, qu'il devait se tenir à l'écart des projecteurs en attendant que les choses se tassent.
La réunion d'Atlantic City a été l'un des 3 premiers sommets mafieux de l'histoire des États-Unis. La plupart des parrains qui y ont assisté étaient de New York, Chicago, Philadelphie, Détroit, Buffalo. Ils étaient là pour discuter des moyens de créer des alliances pacifiques. L'hôte de cette réunion était Nucky Johnson, une personnalité politique puissante doublée d'une figure du crime organisé d'Atlantic City. Ce sommet a probablement réuni le plus grand nombre de mafieux, comparé à celui qui s'est tenu à La Havane dans les années 40 ou à celui d'Appalachian dans l'État de New York dans les années 50. Le sommet d'Atlantic City a été organisé à la suite du massacre de la Saint-Valentin. Les problèmes rencontrés par une famille du crime créent toujours systématiquement des problèmes à toutes les autres. Et le fait que l'opinion publique ait été scandalisée par le massacre de la Saint-Valentin a eu en effet des répercussions sur les autres familles du crime. De toute façon, ils en avaient assez de la violence qui régnait à Chicago et qui, par habitant, était bien plus grande qu'à New York et dans d'autres villes pendant la période de la Prohibition. Ce sont donc les gangsters de New York qui ont été à l'origine de ce sommet. Le principal participant était Meyer Lansky, que l'histoire reconnaît comme ayant été le cerveau du crime organisé et qui avait compris comment celui-ci devait être structuré pour le profit. Johnny Torrio en était aussi l'un des acteurs principaux. Sa présence est toujours restée tellement discrète que son nom est rarement cité dans la littérature, académique ou non, décrivant l'ascension de la Cosa Nostra et d'autres familles criminelles des États-Unis. Mais il était là, Torrio. Il était également à l'origine du sommet d'Atlantic City, où il a en quelque sorte répété les mêmes messages qu'il avait adressés quand il était le chef du gang à Chicago. Partageons la ville, il y a assez d'argent pour tout le monde, inutile de nous entretuer. À Atlantic City, la décision a aussi été prise qu'il y aurait un groupe national de direction qui s'est fait connaître sous le nom de la Commission, composé de représentants des 5 familles mafieuses de New York, de Chicago, Détroit, Philadelphie, et Buffalo. Ils s'asseyaient autour d'une table et prenaient les grandes décisions concernant le crime organisé à l'échelle nationale, pas seulement pour New York. Ils ont instauré une véritable politique.
Les gars, on se fixe un territoire. On donne à manger à tout le monde, c'est le proverbe de Lucky Luciano qui vient, il apporte de Sicile, hein, c'est le « je dois manger mais je te donne à manger mais je dois manger », tout le monde peut être gagnant.
Fabrice Risoli, spécialiste de la grande criminalité et des mafias.
Pour les trucs de violence, on crée carrément une association de criminels professionnels qui ne savent même pas pourquoi ils vont tuer. Donc de toute façon, même s'ils se font attraper, ils ne savent même pas qui les a payés ou le mobile. Il se professionnalise.
Al Capone was on relatively friendly terms with mobsters all over the country.
Al Capone était en relativement bons termes avec les gangsters partout dans le pays, y compris à New York, avec Lucky Luciano et Meyer Lansky. Quand on regarde ça de près, je pense qu'ils toléraient Capone un peu comme on tolère un gamin, même s'ils étaient tous relativement jeunes à l'époque. Capone était très émotif. Très impétueux. Il était tout le temps dans les journaux. C'était lui que la presse interviewait, alors que tous les autres faisaient tout pour rester dans l'ombre et demeurer dans la clandestinité. Et donc, pour certains de ses parrains, il représentait un fardeau plutôt qu'un atout. Cela dit, il fallait qu'il fasse partie du syndicat national et qu'on tienne compte de lui, vu le nombre important d'opérations menées à Chicago.
And being taken seriously because they had such a big operation in Chicago.
The message to Al Capone.
Le message adressé à Capone a été « Ne recommence pas un pareil massacre, fais taire les armes, ne retourne pas à Chicago, va à Philadelphie, fais-toi arrêter et fais-toi oublier. »
Al Capone leaves Atlantic City, he goes to Philadelphia. And in Philadelphia, he's supposed to pick up a train and go back to Chicago. While there's a delay between
Capone a quitté Atlantic City pour Philadelphie. Arrivé là-bas, il était censé prendre un autre train qui devait le ramener à Chicago. Pendant le laps de temps qu'il y a eu entre les deux trains, lui et son complice sont allés au cinéma. Quand ils en sont sortis, il y avait deux officiers de police de Philadelphie qui les attendaient et qui les ont interpellés fouillé et ont trouvé sur eux deux pistolets. Or, comme à l'époque c'était interdit par la loi à Philadelphie, ils les ont arrêtés et les ont conduits en prison. Dès le lendemain, ils sont passés devant le juge, c'était très rapide à l'époque. Là, ils ont plaidé coupables et ont reconnu qu'ils portaient une arme de façon illégale. En fait, ce qu'on pense, c'est que tout ça a été un coup monté et qu'Al Capone a accepté de faire un peu de prison pour se mettre à l'abri et pour faire profil bas. Sauf que le plan n'a pas fonctionné exactement comme prévu, car au lieu d'un mois, il a écopé d'un an de prison. C'était un juge très sévère. Capone était évidemment furieux. Je crois qu'il a purgé 9 ou 10 mois au pénitencier d'Eastern State, à l'extérieur de Philadelphie. Et ça a un peu calmé les choses à Chicago pendant ce temps-là. Malheureusement pour lui, ça a été le début de la fin. Parce qu'avant même le massacre de la Saint-Valentin, les enquêteurs fédéraux cherchaient déjà le moyen de le faire tomber, avec deux options possibles, la fraude fiscale ou la contrebande d'alcool. Et ils ont donc enquêté parallèlement sur les deux plans. Côté prohibition, c'est le fameux agent fédéral Elliot Ness qui a été chargé du dossier et a enquêté pour engager des poursuites sur ses opérations de contrebande. Côté fraude fiscale, il y avait à l'époque ce qu'on appelait les T-Men. C'était les enquêteurs du département du Trésor. Et ce sont eux qui ont épluché ses impôts.
Avec le massacre de la Saint-Valentin, Al a dynamité la concurrence. Exit les hommes du North Side, éparpillés façon puzzle. Désormais, plus rien ni personne ne semble en mesure de contester son pouvoir. Excepté que, dans le prochain épisode, à Chicago, qu'on surnomme la ville venteuse, les vents vont tourner pour Al. Un nouvel adversaire d'un tout autre calibre va apparaître sur sa route en la personne du nouveau président des États-Unis, Herbert Hoover himself, bien décidé à faire tomber Al. Sur son chemin de croix, Al, devenu l'ennemi public numéro 1, va alors croiser des agents fédéraux très coriaces et incorruptibles, dont un certain Elliot Ness.
On m'a dit qu'il est pape de bien des religions. Parmi les plus curieuses et les moins catholiques, celle où le vin de messe est un mauvais bourbon, fait dans un faux hangar, dans un vieil alambic. Celle où les cathédrales sont des maisons bizarres, où les prêtresses sont des dames faméliques, où l'on parle en browning, en rafale, en dollars, d'une façon tranchante, un peu automatique. Drôle de façon, curieux bonhomme, monsieur comment, monsieur Capone.
C'était Al Capone, roi des gangsters. Épisode 3, guerre et paix dans la mafia. Avec Helen Arter, Wayne Johnson, Richard Lindbergh, Arthur Lurigio, Fabrice Rizzoli, Geoff Schumacher, Brad Schwartz et Benoît Tadier. Avec les voix de Daniel Delabesse, Yann de Monternot, Nathalie Canoui, Thierry Beauchamp, Philippe Girard, Claude Bernard Perrault et Olivier Martineau. Traduction Abigail Boucher, Park Crozen, Fanny Brett-Rabot et Pierre Namia. Archivina Ingrid Lecointe. Extrait du film L'affaire Al Capone et extrait de la série Boardwalk Empire. Documentation musicale Antoine Vuoz. Prise de son extérieure Martin Troadec. Prise de son studio Bastien Varigo, Lucas Finet, Marie Lepeintre, Mathieu Leroux, Alison Ascrisi, Guillaume Ledu et Valérie Lavalard. Mixage Jason Taous. Coordination Christine Bernard. Une grande traversée de Federico Polo Devoto réalisée par Marie-Laure Ciboulet.
Nous offrir le bonheur, mais il est quelque chose qui m'est moins agréable. Il faut que je t'avoue qu'il aurait une amie, toute vêtue de noir, nul ne voit son visage. Mais chacun en a peur et tout le monde fuit quand on sait qu'elle approche ou hante les parages. Curieux ami, drôle de bonhomme, votre monsieur Capone.